Bloc Invest. Parlons investissement tout simplement.
Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloc Invest. Ici on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui c'est un podcast assez spécial parce que c'est un hors-série. Donc je ne commence pas la saison 2 comme prévu aujourd'hui. Mais je suis obligé quand même d'enregistrer un podcast pour faire des remerciements et pour en gros te mettre à jour et te dire en gros qu'est-ce qui va se passer sur les prochains podcasts et sur cette plateforme. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis seulement de mes biens immo, donc de mes locations. Je ne fais pas de formation ni de location courte durée et si tu souhaites me poser des questions, tu vas sur mon Instagram à LocInvest. Voilà, donc la présentation est assez courte, je vais enchaîner. Je ne te promets pas un podcast très long, je fais ça vraiment très rapidement. Alors pour commencer, je veux remercier Thibaut de Bye Bye Patron qui m'avait invité pour faire une interview. À un moment donné, je crois que c'était en août, donc ça date un peu. Le podcast vient tout juste de sortir au moment où j'enregistre, donc il est sorti pour moi hier. Et dès qu'il est sorti, j'ai eu une explosion de mes écoutes, donc je me suis dit qu'il va falloir que je fasse une mise à jour pour les gens qui commencent tout juste à m'écouter. Et j'ai eu aussi pas mal de questions sur Instagram, donc je vais en traiter une dans ce podcast. Au moins, je ne ferai pas un podcast pour rien. Mais avant ça, donc petite mise à jour concernant la saison 2. Donc je n'ai toujours pas de date définitive sur quand est-ce que je commence la saison 2. J'ai déjà pas mal de choses dont je peux te parler. Donc déjà, je connais les premiers sujets de podcast. En premier, c'est mon locataire que je suis en train de virer de mon local commercial. Mais bon, ça, je t'en ai déjà parlé dans la saison 1. Il se passe beaucoup de choses actuellement. Mais le procès n'est malheureusement pas terminé. Donc tant qu'il n'est pas terminé, je ne peux pas t'en parler dans les podcasts. Et c'est à peu près, ce sera ça à peu près, je pense, le top départ de la saison 2. Dès que je connais la date du tribunal, je sais que je peux enregistrer ce premier podcast. Et là, je pourrais enchaîner. Ensuite, je pense faire un podcast aussi sur la détection des arnaqueurs. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais invité pour faire de l'investissement en trading. Ou en gros, c'est quelqu'un à qui tu donnes de l'argent pour qu'il aille trader à ta place et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est littéralement une pyramide de Ponzi. Et comment te dire que... vu que j'ai, on va dire, une éducation financière, je ne suis pas tombé dans le panneau, contrairement aux gens qui étaient invités avec moi dans cette réunion en physique. Mais bon, ça, je t'en parlais dans un prochain podcast. J'ai un immeuble qui s'effondre aussi à cause de la sécheresse. Je pense que c'est bien d'en parler. C'est bien de parler des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Donc au moins que tu sois au courant que si tu as ton immeuble qui est en train de prendre plein de fissures, surtout nous ici dans le sud, c'est normal, on est beaucoup à être touché à cause du réchauffement climatique et de tous les incendies qu'il y a eu l'été dernier. Et ensuite je continuerai bien sûr de te parler de l'actualité immobilière comme d'habitude dans la saison 2. Bien. Maintenant que tout ça c'est fait, la mise à jour pour les podcasts de la saison 2, sur ce hors-série, je vais parler d'une question qui m'a été posée tout juste hier, au moment où j'enregistre cette émission. Donc j'espère que la personne qui m'a envoyé cette question ne m'en veut pas que je fasse un podcast dessus, mais après c'est quelque chose d'anonyme et de quelque chose de plutôt général, donc on ne te retrouvera pas. Je vais juste donner du coup ton pseudo. Étant donné que je n'ai pas ton nom et ton prénom, je pense que ça devrait le faire. Et si vraiment ça te dérange, tu m'envoies un message sur Instagram et je supprimerai automatiquement cet épisode. Voilà. Donc le message vient de Norris. Donc dans le premier message, il dit « Salut, je viens de te suivre et je trouve ton parcours inspirant. » Donc déjà, merci beaucoup. Je ne savais pas que mon parcours était inspirant, mais si je peux aider, vraiment je te remercie. Alors j'ai eu beaucoup de messages comme ça et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur parce que je ne pensais pas recevoir autant de messages de bienveillance. Bon, j'ai pas encore les haters, mais bon, je pense que tôt ou tard, ça devrait arriver. Je continue le message. Est-ce que tu as un dossier bancaire en particulier ou bien est-ce que c'est juste le fait d'avoir du cash sur les comptes qui aident? Je pense les deux, mon colonel. J'ai écouté ton podcast avec Bye Bye Patron au top. Alors, merci beaucoup. Pour commencer, moi, il faut que tu saches que je ne garde pas forcément beaucoup de cash sur les comptes. Dès que j'arrive à un certain niveau, c'est simple, je le dépense. Bon, je le dépense dans des actifs, mais je dépense quand même. Après, moi, comme j'ai dit dans d'autres podcasts, mon gros avantage concurrentiel, ce sont mes dossiers bancaires, parce que avant, j'avais beaucoup de mal à me faire prêter, et vu que je gagnais que le SMIC, il fallait que mon dossier bancaire soit au top et au-dessus de la pile au niveau de la banque. Donc, grosso merdo, c'est ce que je lui ai répondu dans mes messages, que au début, ce n'était pas, on va dire, facile, mais que les dossiers bancaires ont beaucoup aidé, et de là, il m'a posé une question plus sur son cas à lui. Donc, il me manque quand même beaucoup d'infos, mais je vais quand même te la lire. Donc, la question est la suivante. Quel conseil pourrais-tu me donner pour réussir à faire mouche? Je suis à mon deuxième immeuble en SCI et je vais me lancer en nom propre car j'ai abrité un appartement que j'ai fini de payer. Alors là, il y a écrit abrité, mais je pense que tu voulais dire habiter un appartement que j'ai fini de payer et donc je vais avoir 140 000 euros à mettre sur la table. Bien entendu, je souhaite faire un max de levier possible et dégager suffisamment de cash flow pour que mon épouse arrête de travailler pour un employeur et puis travailler sur notre patrimoine immobilier. Donc, pour commencer, il faut que tu saches que j'ai déjà répondu à Nori sur Instagram, mais j'ai donné, disons, une direction générale parce que je ne connais pas du tout sa situation. Donc déjà, je comprends qu'il est marié. Je ne sais pas s'il a des enfants. Je ne sais pas du tout quels sont ses revenus, de combien est-ce que son épouse a besoin de cash flow. Je ne connais pas ses parts dans la SCI, donc... je vais imaginer qu'il a 50% de la SCI. Je ne sais pas du tout quel âge ils ont, sachant qu'il y a déjà un appartement qui est totalement payé. Je me doute qu'il n'a pas 18 ans. Et les 150 000 euros qu'il récupère, je ne sais pas vraiment si c'est parce qu'il rachète son propre appartement grâce à une SCI, du coup il récupère le cash, ou alors s'il vend l'appartement à une tierce personne, et je ne sais pas non plus s'il est propriétaire de sa résidence principale, ou si sa résidence principale c'est l'actuel bien qu'il est en train de vendre, soit lui-même, soit à quelqu'un d'autre. Donc à partir de là, j'ai dû donner quelques réponses, mais sachant que je pense quand même l'avoir aidé et aiguillé sur 2-3 petites astuces que je connais, donc je vais te les donner ici. Donc, on va déjà partir de la situation générale. Il a deux immeubles à SCI. Sachant que le deuxième immeuble, je ne sais pas s'il est en train de l'acheter ou s'il le possède déjà. C'est un peu ambigu dans le message. Ensuite, il a commencé par la SCI et maintenant, il se lance en nom propre. Alors que, normalement, on fait l'inverse. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Tu peux commencer à SCI parce que tu veux t'associer à une autre personne. Ou alors parce que ton taux d'endettement est déjà très élevé, donc il faut que tu fasses ça. Ou alors, il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons où tu dois léguer ton patrimoine à tes enfants et donc automatiquement, tu le décides de faire un SCI. Ou alors, tu ne pouvais tout simplement pas emprunter et il faut que tu t'associes avec des amis ou de la famille. Voilà, donc ça, c'est beaucoup de raisons que je ne connais pas dans le message. Ensuite, on va prendre un peu de recul par rapport à ça. Premièrement, les objectifs dans le message. Premier objectif, c'est faire mouche. Donc là, je comprends avoir un dossier bancaire en béton et pouvoir emprunter via la banque facilement. Deuxième objectif, que son épouse puisse vivre du coup de ses rentes immobilières. Alors là, ce n'est pas impossible, mais ce sera très difficile parce qu'on a quelques obstacles. Le premier, c'est la HSCF. Comme tu sais, un SCI, il ne te bloque pas, mais en nom propre, ils vont te bloquer à 35%, sauf si tu fais partie de la petite minorité des dossiers qui vont arriver à passer. Donc voilà pourquoi il te faut un dossier bancaire en béton. Deuxième obstacle, les futurs biens immobiliers que tu vas acheter, tu ne les connais pas parce que tu ne les as pas encore visités, parce qu'ils ne sont pas encore sur le marché, donc tu ne sais pas encore vraiment ce que tu pourras acheter. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'inconnu de tous les investisseurs immobiliers. Tu ne sais pas vraiment où en est le marché au fur et à mesure de tes étapes. Bon, après, si tu es tout le temps sur le terrain comme moi, tu arrives à juger, mais tu ne sais jamais quand est-ce qu'un bien va être mis en vente et quand est-ce que le bon bien, la bonne affaire va arriver. Il se peut qu'elle n'arrive jamais dans ta région. Enfin, en tout cas, tu ne la vois jamais passer. Donc ça, c'est l'un des obstacles, mais c'est l'obstacle que l'on a tous. Et ensuite, l'un des plus gros obstacles qui va arriver pour toi, c'est les taux d'emprunt qui sont de plus en plus élevés et donc automatiquement un cash flow beaucoup moins élevé. Et étant donné que le cash flow, c'est ce que tu cherches, tu vas devoir procéder par étapes. Donc, je vais te dire déjà ce que j'ai conseillé à Noïse. Donc, premièrement, je lui ai dit qu'avec le cash qu'il avait, ce sera très simple de se faire prêter au début. Alors, même si tu arrives à dépasser les 35%, quand tu as du cash de côté, tes dossiers passeront plus facilement. Donc, il faut pas que tu mettes tout ton cash dans les emprunts que tu vas faire, mais il faut au moins que tu avances les frais de notaire et les frais de garantie de la banque. Dans les frais de garantie, ça peut aller, je sais pas, de 300 euros, enfin, zéro si tu arrives à le négocier, mais moi, personnellement, je ne les négocie pas, à maximum 2000 euros. En moyenne, ce sont les prix bancaires pour fin 2022. Ensuite, je lui ai conseillé de trouver le bon conseiller. Donc, le bon conseiller bancaire. Là, ce n'est pas forcément la banque chez qui tu es qui est le plus important, mais c'est surtout le bon conseiller. Pour ça, je te conseille aussi d'aller dans une banque où ils n'ont pas beaucoup de clients. Moi, personnellement, la banque qui nous prête beaucoup, ils ont 4000 clients, sachant que ce n'est pas forcément énorme comparé à l'emplacement où ils sont. Donc, essaye d'être le plus gros client dans la plus petite banque, ce qui fait que tes dossiers passeront beaucoup plus facilement. Nous, là, récemment, sur le dernier prêt qu'on est en train de faire, c'est même le banquier qui nous a dit « Ah ben, nickel, ça tombe bien que vous nous demandez un prêt pour l'année prochaine, parce qu'au moins, comme ça, on pourra faire nos objectifs. » C'est même eux qui nous disent qu'ils ont du mal à faire leur objectif. Ensuite, je lui ai conseillé de faire donc un prêt sur 20 ans et de rajouter les 2 ans de différé partiel. À côté de ça, le plus important, tu vas comprendre pourquoi après, je lui ai conseillé de négocier les frais de remboursement anticipé. Dans les frais de remboursement anticipé, si tu ne connais pas, c'est-à-dire que si tu rembourses ton prêt en anticipation, tu as soit 3% de frais à payer d'intérêt, soit 6 mois d'intérêt. Ce sera le plus bas des deux au niveau du barème. Quand tu négocies ça à la banque, alors déjà, il y a plusieurs astuces. Pour commencer, tu demandes le 0% automatiquement. La première fois que j'ai fait ça, ils me l'ont mis à 0,75% au lieu de 3%. Bon, j'ai laissé comme ça, mais maintenant, je demande automatiquement 0% et c'est non négociable. Alors, je t'explique comment faire si la banque ne veut pas. Dans les contrats, tu peux leur dire, écoutez, vous me le mettez à 0% et c'est valable seulement si je vends le bien immobilier ou que je rembourse avec mon épargne à moi personnel sur le compte bancaire. Pourquoi tu peux dire ça à la banque? Parce qu'elle, en fait, elle s'assure que tu n'ailles pas voir ailleurs. C'est-à-dire que si tu fais un rachat de prêt dans une autre banque, automatiquement, elle sait qu'elle récupère les 3% de remboursement de frais d'anticipation. Alors là, j'ai peut-être un peu mal dit, mais je pense que tu m'as compris. Ça permet de dire à la banque, écoutez, moi je compte rester chez vous, si je rembourse à l'avance, c'est parce que je l'ai vendu ou alors que j'ai du cash de côté. Dans tous les autres cas, si je vais voir ailleurs, c'est comme une amende, je vous paierai les frais de remboursement anticipé. Donc une fois que tu as réussi à obtenir ce petit avantage, donc là j'ai dit à Noris, du coup, d'utiliser les loyers encaissés pendant le report, donc il faut vraiment que tu loues le plus rapidement possible tes biens, ou alors d'acheter déjà des biens loués et pendant le report, tu utilises les loyers pour encaisser un maximum de cash, et tu fais ça sur tous les biens que tu es en train d'acheter. Étant donné que le but c'est d'avoir du cash flow immédiatement, le plus rapidement possible, avec les loyers que tu as encaissés, tu rembourses en anticipation une partie du capital pour essayer d'augmenter ton cash flow et par conséquent du coup de baisser ton endettement. Le souci c'est que 35% tu l'atteins assez vite. Donc tu l'atteins assez vite même si vous êtes deux, donc ça c'est quand même une bonne chose parce que votre taux d'endettement peut être beaucoup plus élevé, donc ça c'est un avantage que vous avez à investir à deux, mais le fait d'arriver très vite à 35% fait que vous risquez de devoir revendre un bien, Donc là, c'est bien d'avoir du coup les frais de remboursement anticipé à 0% pour pouvoir en racheter, je dis n'importe quoi, deux ou trois ensuite. Une fois que tu as fait ce scénario plusieurs fois, là, normalement, vous devriez arriver très vite à vous verser du bénéfice, donc du cash flow. Et donc, Doris, tu pourras faire en sorte à ce que ta conjointe, enfin ton épouse, puisse vivre déjà des investissements immobiliers. Mais le plus gros point fort que vous avez, c'est que, étant donné que vous êtes deux et que j'imagine que vous avez deux revenus, même si je pense que tu travailles toi aussi, ça veut dire que l'un de vous deux pourra très vite quitter son job, parce que là, vous aurez deux fois moins d'efforts à faire, étant donné que vous êtes deux à investir. Donc votre levier bancaire sera tellement élevé que très vite, il y aura au moins un des deux salaires qui pourra être remplacé. Après, je ne sais pas où tu vis, j'imagine que ce n'est pas à Paris, étant donné que tu m'as dit que tu as remboursé un appartement à 140 000 euros. Je sais que ce ne sont pas les prix des appartements sur Paris. Donc voilà les premières pistes que j'ai données à Noris. J'espère que ça a pu quand même toi aussi t'aider, étant donné que la HSCF c'est vraiment le truc qui fait que la plupart des gens ne veulent plus investir. Ah oui, dans la simulation que j'ai faite, j'ai considéré que les deux immeubles que tu possédais en SCI s'autofinançaient, n'avaient pas de cash flow ni de déficit. Parce qu'il fallait bien que je prenne une décision, donc j'ai pris la décision la plus neutre possible. Après voilà, comme je l'ai dit, il vaut mieux commencer à se lancer en nom propre puis en SCI. Je pense que tu as eu quand même tes raisons de commencer par la SCI. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je ne conseille pas à Noris de continuer d'investir en SCI, parce que je pense que là il peut se faire prêter facilement, étant donné que son taux d'endettement là ne sera pas pris en compte et en plus il aura du cash de côté, c'est que quand tu achètes un SCI, il y a un frottement fiscal. Donc pour le cash flow, ce n'est pas l'idéal. La SCI, ça te sert vraiment à grossir plus vite, mais il faut pas que tu te sers de l'argent tout de suite, sinon tu vas payer plus d'impôts que prévu. Sauf si tu arrives à la tranche marginale d'imposition de 30%, là il faut tout de suite que tu achètes un SCI, tu oublies tout ce que j'ai dit avant et tu achètes tout de suite un SCI. Donc là, si je lui conseille d'investir en nom propre, c'est vraiment parce que quand tu investis de cette façon-là, les loyers, tu les as directement sur ton compte. Il n'y a pas de dividendes à te distribuer, pas d'impôts sur les sociétés et pas de société à construire, donc pas de frais de société à côté. Voilà, donc c'est un avis général. Bien sûr, chaque cas est particulier. Comme je l'ai dit, là j'essaie d'être le plus neutre possible. Je ne connais pas toute la situation, je devine juste l'âge, la situation familiale et le cash qu'il possède. Mais là, c'est vraiment pour dégrossir. Bien, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Donc comme je te l'ai dit, ce n'est pas le début de la saison 2, c'est vraiment un hors-série pour te tenir au courant. Donc si tu as des questions peu posées, ben, tu me les envoies sur Instagram et puis je pourrai les traiter dans les podcasts avec un peu plus de précision. Je suis content d'avoir refait un épisode, ça fait quand même très plaisir. Je te dis à la prochaine dans un futur épisode. Salut!
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.